Bonjour à tous. Bonjour. Que le Seigneur nous bénisse ce matin pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver ici. Le thème de notre prédication est intitulé « La marque de notre foi ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine notre foi? C'est vrai, Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés. On a ça comme, je vais dire, premier élément qui fait de nous des chrétiens. Mais lorsqu'on a accepté Christ, qu'est-ce qui va marquer notre foi? Donc, c'est ce qu'on veut voir ensemble. Dans Romains au chapitre 2, à partir du verset 17, au verset 29. Romains 2, 17 à 29. Et avec votre permission, je vais prier, demander au Seigneur de nous assister. Je vais me déposer en lui, me reposer en lui, afin qu'il puisse nous parler. Puis ça me permet de déposer sur lui mon stress. Et puis lui-même, il va gérer les choses comme il veut. Amen. Seigneur Dieu, je bénis ton nom qui est grand. Je te suis infiniment reconnaissant pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin de t'adorer. Seigneur, nous sommes contents d'être dans ta présence parce que tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, tu es notre appui et tu es notre force. Seigneur, sur toi, nous voulons nous appuyer ce matin et te demander de nous assister. Seigneur, te demander de nous parler. Te demander, Seigneur, de nous enseigner. Père, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, je veux me remettre entre tes mains afin que dans ta grâce, Seigneur, tu m'assistes et que je sois le canal par lequel tu veux parler à ton Église, par lequel tu veux nous parler. Seigneur, je suis à me demander, mais qui suis-je pour parler au peuple de Dieu? Qui suis-je pour parler aux enfants du Dieu véritable? Seigneur, j'ai besoin de toi, tu le sais. Et puis parle-nous, Seigneur, que ton nom soit élevé encore. Merci, toi qui es fidèle, toi qui es Dieu. Merci, toi qui es tout-puissant. Merci, toi qui es au-dessus de tout. Merci de nous bénir ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Donc, comme je le disais tantôt, notre texte se trouve dans le livre de Romains, Romains au chapitre 2, du verset 17 au verset 29. Mais pour situer un peu le texte avant sa lecture, on dit, Paul, ayant mandat d'annoncer l'évangile aux non-juifs, donc aux païens, aux incirconcis, est reconnaissant à Dieu pour la renommée mondiale de la foi des chrétiens de Rome. Il en rend continuellement grâce à Dieu. N'ayant pas donc la possibilité de les visiter, donc d'aller à Rome pour voir les chrétiens de Rome, il va prendre la motivation ou la volonté d'écrire. Bien qu'ayant un vif désir de le faire, dans le but d'annoncer l'évangile à ceux de Rome, Paul leur envoie une lettre. C'est ainsi qu'il écrit dans sa lettre, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Romains 1, 16 à 17. Montrant la colère de Dieu contre l'impiété de l'homme dans le chapitre 1, Paul interpelle le juif quant à sa façon de vivre. Lui qui connaît la vérité de Dieu comparé aux païens, aux incirconcis. Alors, si le païen qui ne connaît pas la vérité tombe sous le coup du jugement de Dieu, qu'en sera-t-il du juif qui, malgré la connaissance de Dieu se détourne de sa voie. Alors, dans notre texte, nous verrons que Paul montre dans un premier temps que le nom de Dieu est blasphémé par les païens à cause du comportement des Juifs. Et dans un deuxième temps, Paul indique la marque de la foi en Dieu. Qu'est-ce qui caractérise, quant à nous, notre foi en Dieu en tant que chrétiens? Donc, nous allons regarder le texte sous deux angles. Le premier, Paul dit que le nom de Christ est blasphémé par les païens à cause des Juifs. Et le deuxième point, la marque de notre foi, la circoncision du cœur, c'est l'obéissance. Lisons notre texte. Romains 2, 17 à 29. Toi qui te donne le nom de juif, qui te repose selon la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile. Si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc, lorsque nous regardons notre texte, Paul, dans les premiers versets, donc verset 17 au verset 24, donc il est en train de montrer, il donne les raisons pour lesquelles le nom de Dieu est blasphémé par ceux qui ne connaissent pas Dieu, par les païens, par les incirconcis. Au verset 17, il met une différence entre le juif et le non-juif, le païen. Donc le païen, généralement, quand on parlait de païen, c'est tous ceux qui n'avaient pas la loi de Dieu. Tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient considérés comme des païens. Voilà pourquoi dans Romains 1, 16, on parlait du juif premièrement, du grec par la suite. Donc le grec et tout ça, ce sont les païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, je devais dire nous-mêmes inclus. Okay? Donc le juif, c'est celui qui connaît Dieu. Bien, celui qui aussi est né juif. Donc tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient considérés comme les païens. Donc des hommes sans loi, sans règles, parce qu'ils n'avaient pas la loi de Dieu. Et donc ici, au verset 17, il dit « Toi qui te donnes le nom de juif ». D'abord, lorsqu'on regarde ici, « Toi qui te donnes le nom de juif », c'est « Toi qui es fier d'être juif », »,« Toi qui te proclames juif ». Qu'est-ce qui le caractérise donc, le juif? Il dit « Le juif, il est représenté par celui qui avait la loi de Dieu ». Le juif, c'est celui qui se glorifiait de connaître Dieu. Le juif, c'est celui qui connaît la volonté de Dieu parce qu'il a la loi de Dieu. Le juif, c'est celui qui fait la différence des choses. Donc, s'appuyant sur la parole de Dieu, il est capable de savoir si telle action était bonne ou une autre n'était pas bonne. Il dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Donc, il se repose sur la loi, il se glorifie de Dieu. Il a dit, moi, je connais le seul vrai Dieu. Ah, c'est l'Éternel. Il va s'appuyer sur lui. Il dit, qui connaît sa volonté, parce que j'ai la loi, j'ai la vérité. Qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Donc, dans la loi, il sait ce que la loi dit. Donc, à partir de là, il peut s'appuyer sur cette loi-là, pour apprécier les choses, pour donner son point de vue, son avis sur des choses. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, il se flatte d'être leur conducteur parce que lui, il a la loi, donc il peut les diriger. C'est-à-dire, il a la vérité, donc il peut les conduire. Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Donc, le juif était caractérisé par celui qui avait la possession donc, de la loi, qui avait la connaissance que Dieu voulait que les hommes aient. Donc, le juif était fier de cela. Il était fier de dire « Je suis juif, parce que moi, au moins, je connais Dieu. » Donc, imbu de cette connaissance ou de ce savoir qu'il avait, il va donc apporter un jugement sur les autres. Il va mal regarder les autres. Il va apprécier les actions des autres. Et par conséquent, si le juif est celui qui avait toutes ses connaissances ou qui était caractérisé par ces éléments que je viens de citer, le païen, donc, était quelqu'un de barbare, était quelqu'un de sans loi, celui qui n'avait pas la connaissance de Dieu, celui qui agissait en dehors des règles que Dieu voulait, en dehors de la science que Dieu voulait. Quand bien même qu'ayant en lui quand même la représentation de Dieu par la création, par la nature, ou des règles, la conscience que Dieu avait en lui, mais il n'avait pas cette loi-là. Dont avaient les Juifs. Ils n'avaient pas cette loi avec laquelle le Juif pouvait se vanter. Donc, le Juif était orgueilleux de connaître Dieu. Et lorsque nous regardons les versets 17 à 20, on voit que le Juif est fier de se nommer Juif. Il dit « Je suis Juif et je suis fier d'être Juif parce que je connais le seul vrai Dieu. » Donc, quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Donc, le Juif avait une alliance avec Dieu de par Abraham. Il avait une alliance avec Dieu. Donc, celui-ci prétend être le conducteur des autres, prétend avoir la connaissance et le savoir pour enseigner les ignorants. Il a la vérité. Le verset 21 nous dit, « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. » Donc, du verset 21 au verset 23, on voit ici que, ayant tous ces avantages-là, tous ces privilèges en tant que juif, du verset 21 au verset 23, il y a un bémol qui s'installe. Tu les as, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu as la loi, qu'est-ce que tu en fais? Tu as la science, tu as la vérité, qu'est-ce que tu en fais? Il est toi donc qui enseignes les autres. Tu as la capacité d'enseigner les autres. Parce que tu as la loi, tu as la vérité. Mais tu ne t'enseignes pas toi-même. La première leçon qu'on retient de ce bout de phrase, c'est-à-dire lorsqu'on apporte un enseignement, la première personne à être indiquée du doigt, à être pointée du doigt par cet enseignement-là, c'est nous-mêmes qui la donnons. Quand tu enseignes les autres, enseigne-toi toi-même par ce que tu es en train de dire. Quand tu enseignes les autres, enseigne-toi toi-même. Donc, la première personne à recevoir un enseignement, c'est la personne qui la donne. Avant de prétendre enseigner les autres, il faut d'abord s'enseigner soi-même. Jacques 3, 1 nous met en garde. Il dit, « Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez, nous serons jugés plus sévèrement. » Et quand tu lis ça, tu as peur. Donc, lorsqu'on apporte un enseignement, quand je parle d'enseignement, je ne suis pas en train de parler d'une personne qui vient se mettre à la chaire simplement comme moi. Le fardeau serait trop lourd. Mais quand on enseigne, même les enfants, quand on donne un enseignement, quel que soit là où nous sommes en train d'apporter un enseignement de la part de Dieu à un individu, à une personne, qu'on puisse dire, « Ah, est-ce que ce message me... D'abord, ce message me parle. » C'est parce qu'il me parle que Dieu voudrait qu'il puisse parler aussi aux autres. Donc, enseignons-nous nous-mêmes. Il dit par la suite, « Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Voici les raisons pour lesquelles tu dois t'enseigner toi-même. Tu ne dois pas dérober, mais tu dérobes. Une façon de dire, ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Mais la Bible nous dit, fais ce que je dis et fais ce que je fais. C'est l'enseignement que la Bible nous dit. Comme l'exemple de Paul qui demandait, qui disait toujours, soyez mes imitateurs quand il écrivait ses lettres. Il dit, soyez mes imitateurs. Ça, il était fier de sa marche avec le Seigneur. Il dit, soyez mes imitateurs. Et ce matin, c'est à cela aussi que le Seigneur voudrait nous interpeller. Lorsqu'on enseigne, comprenons que l'enseignement est d'abord pour nous, avant d'être pour celui qui nous écoute. Il dit, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Lorsqu'on parle d'adultère, c'est pas seulement, je veux dire, la relation entre homme et femme, d'abord qui est condamnée, mais aussi, c'est la recherche multiple ou l'adoration multiple d'autres dieux. Des éléments qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Des éléments pour lesquels sur lesquels on va mettre plus l'accent, qui vont nous détourner même de notre amour pour Dieu. Il dit, toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Combien de fois on ne se tâte pas des fois d'être fier de dire qu'on a la possession de la Bible? Ah, nous on a la vérité. Mais on a la vérité, mais on la foule aux pieds. On a la vérité, mais on s'en fout d'elle. On la transgresse comme on veut. Mais on est fier parmi des personnes qui ne connaissent pas Dieu de dire, ah, mais nous, on a la Bible comme vérité et comme élément qui nous guide. Paul dit, enseigne-toi toi-même. Toi qui as fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Donc le verset 24 nous donne la conséquence de nos actions. Et la conséquence de nos actions ici, ou de notre conduite, c'est qu'à cause de la mauvaise conduite des Juifs, le nom de Dieu est blasphémé par les païens, par ceux qui n'ont pas la vérité. Tandis que le Juif se met là et puis dit, mais vous êtes des païens, vous n'avez pas la vérité, vous êtes sans loi, vous n'avez pas de règles, vous vivez comme ça, nous on va vous guider. Mais pendant qu'ils sont en train de dire aux autres qui vont les guider, eux-mêmes ils transgressent cette loi-là. Le nom de Dieu est blasphémé. Alors le païen, il va dire, mais lui c'est un Juif, il dit, il marche selon la loi de Dieu, mais il fait pire que nous. Il nous dit de ne pas dérober, mais regardez, lui-même il dérobe. Il nous dit de ne pas poser cet acte, mais regardez-le, c'est lui-même qui pose l'acte. Il transgresse la loi. Mais est-ce que c'est le Dieu qu'il suit, est-ce que c'est vraiment le vrai Dieu? Ézéchiel 36, verset 20 à 23 nous dit ceci. Et arrivés chez les nations où ils sont allés, ils ont déshonoré mon saint nom en ce que l'on disait d'eux. Ces gens-là sont le peuple de l'Éternel. Et ils sont sortis de son pays. Et j'ai eu pitié de mon saint nom, que ceux de la maison d'Israël ont déshonoré dans les nations chez lesquelles ils sont allés. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que je le fais, maison d'Israël, mais pour mon saint nom, que vous avez déshonoré dans les nations chez lesquelles vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui est déshonoré dans les nations au milieu desquelles vous l'avez déshonoré. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel, quand je me sanctifierai en vous, à vos yeux. Donc les enfants d'Israël, en dehors d'Israël, certainement en captivité, auront une conduite qui déshonore Dieu. Donc certains vont s'allier à de fausses adorations, à de faux dieux dans leurs comportements. Alors les nations vont dire, mais ça c'est le peuple de l'Éternel. L'Éternel dont on a entendu parler, est-ce que c'est vraiment le peuple de l'Éternel? Ce nom-là qui nous effrayait, simplement lorsqu'on disait que les enfants d'Israël arrivaient dans des lieux, les contrées autour, tout le monde tremblait parce que les gens se disaient que l'Éternel était avec eux. Alors quand on voit les enfants de l'Éternel ou le peuple de l'Éternel marcher en dehors des règles de l'Éternel, les nations se posent des questions. Et les nations pointent du doigt les enfants d'Israël. Et ils blasphèment le nom de Dieu. Alors l'Éternel dit qu'il sanctifiera lui-même son nom. Pas à cause de votre conduite, pas à cause de vous, mais à cause de mon nom, je vais agir. Alors, qu'est-ce qui devrait caractériser la foi du Juif? Lorsque nous lisons les versets 25 à 29, la marque de la foi du Juif est montrée clairement. Paul dit aux Juifs que leur apparence physique est utile, si et seulement si ils mettent en pratique la loi. Au verset 25, Paul va mettre l'accent sur la circoncision. Il dit « La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. » Donc l'un des éléments de l'alliance entre les enfants d'Israël et Dieu, c'était la circoncision. Donc à l'âge de 99 ans, dans Genèse, selon Genèse 17, à l'âge de 99 ans, Abraham va faire une rencontre spéciale avec le Seigneur. Et dans cette alliance-là, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va dire à Abraham, tu auras pour alliance, la circoncision serait une alliance entre vous et moi. Donc l'Éternel va parler avec Abraham, ils vont échanger. Quand ils auraient fini d'échanger, on dit la même journée même, Abraham va circoncire tous les mâles de sa maison. Lui, il avait 99 ans. Donc, il a fait ça à 99 ans. Ismaël, le fils de Agar, qui était sa servante, avait 13 ans et l'enfant de la promesse n'était pas encore né. Donc, la circoncision devient donc la marque de l'alliance entre l'Éternel et les enfants d'Israël. Et cela va continuer. Donc, à l'âge de 8 jours, un enfant mâle devait être circoncis. Et c'était la démarche qui était faite. Donc, le Juif, en plus de posséder, d'avoir la fierté d'avoir Dieu, d'avoir la loi, il dit, mais j'ai la fierté encore d'avoir une marque physique qui montre mon alliance avec Dieu. Non seulement il va glorifier Dieu parce qu'il a la loi, mais il va encore glorifier Dieu parce qu'il a la circoncision. Donc, cette circoncision-là sera utilisée, je dirais, comme moyen de pression auprès des païens. Et lorsqu'on lit Galates, dans Galates, de faux enseignements vont rentrer même pour faire croire aux chrétiens qui n'étaient pas juifs qu'il était important d'être circoncis pour prétendre avoir le salut. Donc, le salut devient complet lorsqu'on a la circoncision qui accompagne. Mais très vite, Paul a clarifié les choses. Donc ici, Paul est en train de leur dire, c'est vrai, vous avez la circoncision. Elle est utile. Mais si tu mets en pratique la loi, mais si tu la transgresses, alors la circoncision devient donc une incirconcision. C'est comme si tu n'étais même pas circoncis. Donc cette loi-là n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est nul. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son circoncision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Donc, lorsqu'on lit les versets 26 et 27, on voit ici que Paul pose deux questions rhétoriques. Donc, les questions rhétoriques n'ont pas besoin de réponse. Donc, il les pose, mais tu réponds toi-même. Donc, il pose ces questions-là pour amener les destinataires de son courrier, de sa lettre, à réfléchir. C'est-à-dire, quand ils prennent la lettre et puis lisent ces deux questions-là, « Ah, mais qu'est-ce que le gars est en train de nous dire là en nous posant ces questions ?» Ça fait réfléchir. Donc, il est en train de leur dire, « Mais vous vous vantez parce que vous avez la loi, tout ça c'est bien, vous vantez parce que vous êtes circoncis. Mais la circoncision, là, si vous l'avez que vous transgressez la loi, c'est comme si vous n'aviez rien. » Donc, c'est comme si je me levais pour dire partout, « Je suis chrétien, je suis chrétien. » Et puis, ma vie est pire que la vie de celui qui n'a pas connu Christ, qui n'a pas accepté Christ. Mon entourage même se pose une question. Je ne sais pas si vous aviez déjà reçu cette question-là. « Ah, avec l'acte que tu poses là, tu penses que tu es vraiment chrétien ?» Des fois, on nous pose ce genre de questions. Ou encore plus. On te regarde, on dit « Mais avec ça, il dit qu'il est chrétien. » Donc, c'est pour dire que notre conduite, nos actions parlent. Et Paul est en train de dire la même chose aux Juifs. Mais vous avez la circoncision, mais comment vous vous comportez? Mais si vous transgressez la loi, c'est comme si vous ne l'aviez pas. Mais celui qui n'a pas la loi, qui marche selon les lois de Dieu, mais c'est celui-là, au contraire, on dirait qu'il est circoncis, quand bien même que son précipice soit présent. Souvenons-nous de Corneille. C'était un païen, Corneille, ce n'était pas un juif. Mais Dieu s'est révélé à lui. Donc le juif, en plus d'avoir la fierté de posséder la vérité, la loi, et de glorifier le seul vrai Dieu, était fier d'avoir l'apparence extérieure de l'alliance qui était la circoncision. Il dit, c'est encore vrai que vous avez la marque extérieure de l'alliance qui est la circoncision. Mais si tu n'honores pas Dieu par ta conduite, c'était comme si tu étais un païen, un incirconcis. Par contre, si le païen obéit à Dieu, son incirconcision devient circoncision. Donc Paul est en train de le dire aux Juifs. Et quand il finit de poser ces deux questions rhétoriques, au verset 28, il va redéfinir ce que signifie un Juif. Le Juif, ce n'est plus celui qui a la loi. Le Juif, là, ce n'est plus celui qui a la circoncision. Il dit, mais le Juif sait, au verset 28. Il dit, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le Juif, ce n'est pas l'apparence. Le Juif, ce n'est pas la marque de la chair qu'on a. Mais le Juif, au verset 29, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc, il redéfinit le Juif. Il donne une nouvelle définition au Juif. Paul note ainsi que toute la loi ne peut garantir le salut. Si la transformation ne vient du cœur, cette transformation est faite par l'Esprit de Dieu. Donc Paul, dans son interpellation aux Juifs, est en train de leur dire que peu importe qui nous sommes, que l'on soit juif de naissance, que l'on soit étranger, c'est-à-dire païen, que l'on soit circoncis ou incirconcis, ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Il dit, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mais quand il dit la louange de ce juif-là, il n'est pas en train de dire la louange de ce juif, de celui qui est né juif, qui est circoncis, mais la louange du juif que lui l'a défini. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas ce qui est visible, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc, celui qui l'est intérieurement, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Celui qui l'est intérieurement, c'est celui qui a le souci de marcher selon la parole de Dieu. Celui qui l'est intérieurement, c'est celui qui a le cœur qui est circoncis. 1 Corinthiens 7, 19 nous dit, « Être circoncis n'est rien. Être incirconcis n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Amen. L'observation des commandements de Dieu est tout. La marque du juif, c'est la circoncision du cœur qui signifie la crainte du Seigneur, qui signifie l'obéissance à Dieu. Nous aussi, en tant que chrétiens, quelle est la marque de notre foi? Oui, Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés. Oui, il a porté nos fardeaux. Mais quelle est la différence entre moi et celui qui ne connaît pas le Seigneur? Des fois, quand je suis avec celui qui ne connaît pas le Seigneur, il n'y a même pas de différence. Parce que tout ce qu'il fait, je fais. Ou du moins, je dirais le contraire, tout ce que je fais, il fait. À telle enseigne que quand on est ensemble, on est comme deux gouttes d'eau. On ne sait pas qui est chrétien, qui est païen. Mais Paul m'interpelle. Il dit, non, il y a un problème. Je dérobe, il dérobe. Je commets l'adultère, il commet l'adultère. Je suis idolâtre, il est idolâtre. Où est donc mon Dieu? Et Paul m'interpelle ce matin. Il dit, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Parce que quand on a accepté Christ, la Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, mon ancienne vie a eu une influence sur moi. Mais quand j'ai accepté Christ, le changement arrive. Quand j'ai accepté Christ, ma vie change aussi. Et Paul était en train de dire aux Juifs, vous avez la loi, marchez selon la loi. Mais nous, en tant que chrétiens, on a la parole. Marchons selon la parole. Deutéronome 30, verset 6. Ça me fait sourire parce que après, j'ai mon fils qui me note. Deutéronome 30, verset 6 dit, « Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu. » De tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Oui, l'Éternel, notre Dieu, circoncit notre cœur. Comme les Juifs, qui étaient fiers de l'être, dénombrant leurs privilèges et leurs acquis dans la loi, nous aussi, nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. En tout cas, moi, je suis fier d'être appelé enfant de Dieu. J'aime ça. Nous aussi, nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. Parce que c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être appelé enfant de Dieu. Chrétien, et nous le revendiquons même, à telle enseigne que des fois dans des rencontres de famille ou d'amis, quand on va commencer à parler, qui est chrétien, on sera fier et puis on va lever la main, on est chrétien. Parce qu'on veut proclamer notre Dieu, Dieu aime ça. Amen. Le Seigneur voudrait qu'on le proclame, qu'on déclare notre foi. Et puis on est fiers de l'être et on veut le faire. Mais comme Paul interpellait les Juifs à la circoncision du cœur, nous aussi, il nous interpelle. Si nous sommes chrétiens, marchons selon les recommandations de notre Dieu. Notre Dieu est saint, alors sanctifions son nom aussi par notre conduite. Philippiens 3, 3 dit ceci. Car c'est nous qui sommes la circoncision. Nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Oui, nous ne mettons point notre confiance en la chair. Mais nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. La marque de notre foi, c'est la circoncision du cœur. C'est l'obéissance à Dieu. Jacques 1, 22 nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le verset 27 ajoute, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Souvent, quand on va citer ce verset, on va s'arrêter à la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Point. Mais la suite dit, et à se préserver des souillures du monde. Apprenons à dire non. Non à la tentation. Disons non au péché. Si nous nous glorifions en Dieu et si nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu, marchons selon la parole de notre Dieu. Que notre conduite puisse parler à la place de notre bouche. Que notre conduite puisse parler pour nos mots. En disant, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Au lieu que ce soit notre langue qui le proclame à tous les jours. Que notre conduite accompagne cette proclamation aussi. Père, que ton nom soit sanctifié. La marque de notre foi, c'est l'obéissance à notre Dieu. C'est cela, avoir la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force de marcher dans ses voies et dire non à la tentation. Souvent, ce n'est pas facile. Hein? Mais demandons la force au Seigneur, parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. Et j'aime dire, à moi, j'ai un verset que j'affectionne là. C'est lorsque le Seigneur dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ouais, j'aime ça. Parce que c'est que sans lui, là, je ne peux rien faire. Des fois, l'ancienne nature, elle est tellement tenace et terrible. Mais quand je veux me débattre par mes propres forces, mais c'est sûr que ma chute sera grande. Mais quand je vais m'appuyer sur le Seigneur, il me portera lui-même. Et Seigneur, c'est ton affaire, il faut gérer, c'est trop fort pour moi. Et puis on laisse Dieu conduire les choses. Que le Seigneur nous secoue et nous donne la force de sortir du péché dans lequel nous vivons. Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas. Le bien que je veux faire, là, je suis incapable de le faire. Mais ça prend la grâce de Dieu, le secours de notre Dieu. Alors je veux m'adresser à quelqu'un ce matin. Si tu es dans la salle et que tu es en train de te débattre comme un oiseau pris dans le filet de l'oiseleur, cherchant à sortir d'un péché quelconque, d'une conduite quelconque, d'une vie quelconque, le Seigneur te dit encore c'est possible. Parce que c'est lui qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. C'est lui qui est venu apporter la restauration et la délivrance. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Que le Seigneur nous aide à l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Parce que c'est lui qui circoncile les cœurs. Demandons son aide. Que le Seigneur nous aide à sanctifier son nom par nos vies. Que le Seigneur nous donne la force de marcher dans ses voies. Parce que nous sommes conscients que notre environnement est saturé de situations qui nous poussent, qu'on le veuille ou pas, à nous détourner de la voie de Dieu. Notre environnement est saturé, je dirais, de lois. Notre environnement est saturé de propos, est saturé de conduites qui nous poussent même à nous détourner de Dieu. Cela perturbe notre foi tous les jours. Mais le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. Le Seigneur nous dit qu'il est notre force, notre secours. Il est notre appui. Sur lui, on peut se décharger. Quand c'est difficile, déchargeons-nous sur lui. Oui, la marque de notre foi, c'est l'obéissance. Et de plus en plus, certainement, que les situations seront encore difficiles pour notre foi. Ou même nous serons appelés à faire des choix pour notre foi. Quelle serait notre décision? Mais le Seigneur voudrait qu'on s'appuie sur lui. Et la marque de notre foi en tant que chrétien, c'est l'obéissance. c'est avoir la crainte de Dieu dans notre cœur, c'est marcher selon ses voies. C'est ce qui va mettre la différence entre nous et le non-chrétien. Sinon, on sera pareil comme deux gouttes d'eau. Et le Seigneur voudrait qu'il y ait une différence. Donc, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et je vais prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons être reconnaissants parce que, Père, tu es vivant et tu es Dieu. Je voudrais ce matin te dire merci encore de nous rappeler que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Seigneur. Je voudrais te dire merci encore de nous rappeler l'intérêt pour nous de marcher dans tes voies. Seigneur, viens nous secourir, viens donner la force de marcher dans tes voies. Seigneur, viens donner la force de nous détourner de nos mauvaises voies. Seigneur, viens donner la force d'être des enfants obéissants. Bénis ta parole, bénis nos vies, Seigneur, et prends soin de chacun de nous. Seigneur, là où quelqu'un a besoin de restauration, viens apporter ta restauration, Seigneur. Là où quelqu'un a besoin, Seigneur, d'un soutien quelconque, Père, viens agir et viens être sa force éternelle. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui règnes à jamais, toi qui es Dieu. Seigneur, nous sommes contents d'être appelés enfants de Dieu. Pour nous, tu as payé le prix, Seigneur. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Merci.